Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, il est midi 02. Bienvenue dans C'est ça la France. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir des innovations françaises qui devraient révolutionner votre quotidien. Tout à l'heure, nous parlerons de cette première canne blanche intelligente pour aider les personnes malvoyantes et non-voyantes. Une canne qui utilise le son 3D comme repère, une première mondiale et c'est français. Mais tout de suite, je vous propose justement de découvrir une start-up française qui vient de lancer la première plateforme dédiée à l'achat et à la vente de vélos électriques reconditionnés en France.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes avec son cofondateur Toussaint Watine. Bonjour Toussaint.
Bonjour Nathalie.
Alors c'est vrai, les beaux jours sont là, on n'a qu'une envie, c'est de prendre son vélo, se balader. J'imagine que les ventes de vélos neufs explosent souvent à cette période de l'année ou un petit peu avant, dès que les beaux jours arrivent. Et désormais, les vélos électriques, il y en a assez sur le marché pour penser à proposer une plateforme de vélos électriques reconditionnés. C'est une très bonne idée parce que effectivement, j'imagine que ça coûte moins cher et ça fonctionne aussi bien.
Tout à fait. Nous, on a monté Upway, donc ce site de vente de vélos électriques reconditionnés, parce que il y a énormément de vélos électriques qui sont d'ores et déjà en circulation, qui ont une durée de vie très longue, qui sont des produits de grande qualité et qui, par habitude, ont tendance à être soit rangés au garage, soit jetés lorsque leur premier propriétaire n'en a plus l'usage. Et donc, nous, notre objectif, c'est de proposer des vélos qui sont moins chers, on va jusqu'à moins 60% par rapport au prix du neuf, mais tout en maintenant le niveau de confiance et de qualité auquel on s'attend lorsqu'on achète un vélo neuf. Chaque vélo est inspecté par un mécanicien professionnel sur plus de 20 points de contrôle et chaque vélo est garanti un an lors de son achat.
J'imagine que les principales craintes de ceux qui préfèrent aller vers le neuf, c'est la batterie. Ils se disent « Oh, la batterie marchera peut-être moins bien », alors que pas du tout. C'est comme pour les téléphones reconditionnés, les ordinateurs reconditionnés. Il y a une garantie et j'imagine que c'est suivi de manière générale.
Oui, Upway est vraiment né pour répondre à un enjeu et à un gros déficit de confiance dans les vélos électriques d'occasion. Parce que lorsqu'on souhaite acheter un vélo électrique et qu'on se tourne vers le marché de la seconde main, on craint souvent que le moteur, la batterie ou l'électronique soient de mauvaise qualité.
Hein,
exactement.
Ouais.
Et donc on se méfie d'une arnaque et on se demande comment s'assurer que le produit est de bonne qualité. Et donc c'est vrai que nous, on est en mesure, grâce à notre atelier et notre équipe de mécaniciens professionnels, d'effectuer un contrôle et un diagnostic de la batterie, du moteur et de toute l'électronique afin de s'assurer qu'il est en parfait état, qu'on peut réparer ou remplacer les pièces qui ont besoin de l'être et que donc le vélo, lorsqu'il est dans les mains de son nouveau propriétaire, maintient les mêmes niveaux de qualité et de confort que ceux auxquels on peut s'attendre lorsqu'on se tourne vers le neuf.
Vous êtes situé à Gennevilliers, donc vous le disiez à l'instant, vous avez une équipe de réparateurs, un professionnel qui travaille à vos côtés. C'est vrai qu'acheter un vélo électrique neuf, ça a un certain coût.
Oui,
c'est
le marché.
C'est quoi, c'est entre 3 et 4 000 euros, non? Enfin,
alors,
entre 2
le,
et 4
prix moyen,
000, hein.
Le prix moyen d'un vélo électrique aujourd'hui en France neuf est de plus de 2 000 euros.
Ouais.
Et il a plutôt tendance à augmenter. Si on se tourne vers le marché, par exemple, de l'Allemagne, qui est le plus mature en Europe et qui vend le plus de vélos électriques neufs aujourd'hui, ce prix moyen, il s'élève à 3 000 euros. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'à mesure que le marché se développe, les produits gagnent en qualité. On étend les usages. On se tourne vers des produits et des vélos qui peuvent faire des vélos tout-chemin pour aller à la campagne, des VTT pour faire des sorties sportives, ou des vélos cargo pour faire ses courses, emmener ses enfants à l'école. Et donc, à mesure que ces produits se développent, le prix moyen a tendance à augmenter.
Pourquoi est-ce qu'il ne baisserait pas, vu qu'il y a de plus en plus de production? Ça ne serait pas l'inverse, normalement?
Alors, ce qu'on constate, c'est que même s'il y a des gains aujourd'hui en production et donc des baisses de coûts du produit, la montée en gamme des vélos dépasse la baisse des coûts de production et donc le prix moyen a tendance à augmenter avec la qualité des produits qui arrivent sur le marché.
Une batterie qui tient plus longtemps, un temps de recharge plus faible.
C'est ça, c'est les vélos qui sont plus puissants, avec des batteries qui ont une plus longue autonomie et avec un usage qui peut être plus varié, grâce notamment au VTT très sportif ou au vélo cargo pour emmener ses enfants ou des courses chez soi.
Moi, je trouve que le vélo cargo, c'est un très bon exemple parce que souvent, on le prend quand on a ses enfants en bas âge. Puis à un moment donné, c'est quand même encombrant. Donc, c'est vrai que l'avoir en seconde main, ça coûte beaucoup moins cher, c'est assez pratique. Mais justement, cette seconde main, comment est-elle perçue par les Français? Est-ce que ça change? Est-ce qu'on est vraiment un peu comme la voiture d'occasion qui est rentrée dans les mœurs? Est-ce qu'il y a eu un déclic à ce niveau-là ou il faut encore rassurer?
Notre objectif chez Upway, c'est exactement de s'assurer que l'ensemble de la population et les usagers de vélos n'aient pas peur de se tourner vers la seconde main. Quand on a lancé le projet d'Upway en novembre dernier, on a constaté qu'il y avait des sondages qui avaient été effectués qui indiquaient que plus de 50% des personnes qui envisageaient d'acheter un vélo électrique avaient peur d'une arnaque s'ils se tournaient vers l'occasion. Donc il y avait un vrai problème de perception et une vraie défiance vis-à-vis du marché de l'occasion. Et donc notre objectif, c'est de mettre fin à cette défiance en proposant cette garantie de 1 an et en partageant la manière la plus transparente possible le processus de reconditionnement auquel chaque vélo fait face lorsqu'il passe par l'atelier d'Upway, puisqu'on procède à ces 20 points de contrôle et que nos mécaniciens, qui ont pour la plupart plus de 10 ans d'expérience dans le vélo électrique, s'assurent que dans les moindres détails, le vélo est dans le meilleur état possible.
Vous avez évoqué l'Allemagne, justement chez nos voisins allemands. Comment ça se passe au niveau de la location, la vente de vélos électriques seconde main?
Alors, ce qu'on a constaté lorsqu'on a travaillé sur le projet Upway, c'est que partout en Europe, il y a un manque aujourd'hui d'offres de vélos électriques de seconde main, et notamment reconditionnés, y compris en Allemagne. Donc, il y a quelques acteurs qui se sont lancés, mais c'est encore à toute petite échelle par rapport à la taille du marché. Pour vous donner un ordre de grandeur, en Allemagne aujourd'hui, chaque année, sont vendus plus de 2 millions de vélos électriques neufs. Et on est très loin d'avoir ce genre de volume qui sont revendus ensuite sur le marché de la seconde main. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle chez Upway, aujourd'hui, nous proposons notre service en France, en Belgique, mais nous travaillons au lancement de l'Allemagne, qui est du coup prévu dans les toutes prochaines semaines.
On voit les enjeux environnementaux actuels, le prix du carburant, les contaminations au Covid qui inquiètent les gens. On n'a plus très envie de prendre les transports en commun. Donc on sent que c'est un métier qui est vraiment, c'est un secteur qui ne cesse de se développer. Les vélos, on en parlera dans ces salles à France à hydrogène. Donc c'est vrai que pour vous, récupérer tous ces vélos seconde main, on en est qu'au début là.
On n'en est qu'au début. C'est vrai que ce qui nous a attiré avec mon associé Stéphane dans le fait de lancer Upway, c'est de servir une mission qui nous tient à cœur. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs aspects qui sont particulièrement motivants au quotidien. Le premier, c'est qu'on accompagne cette transition vers une mobilité moins carbonée et moins polluante. Et le vélo électrique est une véritable solution pour ça. On accompagne également le fait de jeter moins de produits et d'allonger la durée de vie de ces produits. Comme je le disais, les vélos électriques aujourd'hui sont de très bonne facture. Ils ont une durée de vie qui peut être très longue s'ils sont bien entretenus et bien réparés. Et donc, on s'assure d'allonger cette durée de vie en donnant une nouvelle vie à ces vélos. Et enfin, on développe le savoir-faire industriel français sur le territoire, ce qui, pour nous, était également un élément très important de ce projet. Dans un monde où un vélo électrique aujourd'hui a énormément de composants qui ont traversé la moitié du globe avant d'être assemblés et vendus, on veut s'assurer que ces vélos peuvent avoir la durée de vie la plus longue possible et être réparés sur le territoire français.
C'est vrai que ça, c'est un paramètre très important, c'est qu'on crée de la valeur ajoutée dans le territoire, on crée de l'emploi dans le territoire.
Exactement. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que le savoir-faire de reconditionnement et de réparation de vélos électriques est encore à ses tout débuts. Et la réalité, c'est qu'avec l'engouement et l'adoption de vélos électriques au sens large à travers la France, va se développer un besoin pour de la réparation, de la maintenance et du reconditionnement. Et donc ça va être une véritable manne d'emploi également. Nous, on forme des mécaniciens dans notre atelier afin de permettre de développer ce savoir-faire et d'accélérer tout simplement le développement de cette force de travail dans le reconditionnement. Mais je pense qu'il y a un véritable enjeu à l'échelle nationale de développer ces filières de formation pour répondre à ce besoin.
Upway a été créé il y a combien d'années?
Alors Upway a été créé il y a 6 mois.
C'est une jeune start-up.
Une toute jeune start-up du mois de novembre. On a été ravis du lancement. On a été très agréablement surpris par la vitesse et la popularité du service. Et donc, on continue à avancer à toute vitesse face à cette demande.
Alors, bilan à date, combien de personnes utilisent le site Upway? Quel est le prochain grand défi?
Alors, nous, ce qu'on a constaté depuis le début de l'année, c'est que le nombre de vélos vendus par mois a été multiplié par 5 depuis janvier. Donc, on voit vraiment une forte accélération de la demande. On offre aujourd'hui, ou on propose à la vente, plus de 400 vélos électriques, ce qui permet de s'assurer qu'on répond à toutes sortes de besoins, que ce soit un usage urbain avec un vélo pliant, par exemple, pour aller en transport en commun, ou un VTT, typiquement Moustache, ou d'autres marques pour des balades le week-end. Donc, on a vraiment développé cette offre de manière extrêmement rapide. Nos prochains prochains objectifs actuellement sont de non seulement développer le marché français, parce qu'on en est à ses tout débuts et il y a un potentiel absolument colossal, donc faire connaître la marque pour des acheteurs comme pour des vendeurs.
Et l'export, j'imagine.
Et l'export
avec
également.
L'Europe notamment.
Tout à fait.
Merci beaucoup pour cet éclairage. Toussaint Ouattine, cofondateur de la start-up Upway. Merci encore.
Merci à vous.
Dans quelques secondes, nous irons du côté de Lyon découvrir une start-up qui a mis au point un boîtier intelligent qui se fixe sur la canne blanche pour aider les personnes malvoyantes. Une première mondiale. Ça vous intrigue? Eh bien, ça tombe bien, on en parle dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et on part à Lyon découvrir une entreprise qui innove pour aider les personnes malvoyantes avec la première canne blanche intelligente.
Sud Radio, c'est ça la France.
Et nous sommes en ligne avec François Birot, cofondateur de GoSense. Bonjour François.
Bonjour.
Alors vous avez développé avec votre associé une innovation qui permet aux personnes malvoyantes ou non-voyantes d'anticiper les obstacles qui se présentent à eux grâce à une canne intelligente. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça ?
Oui, alors c'est un petit boîtier qui s'appelle Rango, petit boîtier électronique qui se fixe sur le manche de tout type de canne blanche et qui est là pour complémenter la canne. Premier but, c'est de détecter tous les obstacles que la canne blanche ne détecterait pas, par exemple ceux qui sont en hauteur ou quand on passe la canne, on peut passer à côté d'obstacles, et également en effet d'anticiper un peu plus les obstacles pour limiter les chocs qu'on peut avoir entre la canne blanche et puis des obstacles. Typiquement en ce moment, il y a beaucoup de tables sur les terrasses et parfois ça peut être gênant de se choquer avec elles.
Les trottinettes sur les trottoirs.
Exactement, exactement.
Mais alors, quelle est la différence avec la canne électronique qui existe déjà depuis une vingtaine d'années, voire trentaine d'années? Qu'est-ce qu'elle a de plus, justement, grâce à ce petit boîtier?
Alors, il y a plusieurs différences. La première principale, c'est la simplicité d'utilisation. On a fait le focus vraiment là-dessus depuis le début. Il y a de l'intelligence qui est embarquée dans le produit, qui analyse, en fait, à la place de la personne, tout ce qu'il y a autour d'elle, calcule des risques de collision et prévient l'utilisateur que quand il y a un risque de collision. Et le but, c'est de limiter au maximum le nombre de retours pour que ce soit utilisable très facilement après quelques heures d'utilisation.
Alors, comment il est prévenu, justement, l'utilisateur?
C'est une bonne question, parce que c'est vraiment une des particularités de Rango, c'est qu'il est prévenu par un son en trois dimensions. Donc l'utilisateur a des écouteurs, mais qui sont externes à l'oreille, qui ne coupent pas de l'environnement. Ouais. Et quand il y a un obstacle, par exemple, un peu à gauche, et ben la personne va entendre des bips légèrement sur la gauche, à l'endroit où se trouve l'obstacle. Donc il peut facilement le localiser et le contourner. Et il y a d'autres fonctionnalités en fait, qui sont accessibles directement avec Rango. L'utilisateur est annoncé à l'avance quand il arrive proche d'une intersection, on lui décrit le carrefour. Il peut avoir accès aux horaires de transport en commun, de bus, de métro, de train, partout dans le monde. Et il a une dernière fonctionnalité qui est la possibilité de savoir en un clic l'adresse à laquelle il se trouve.
Alors, pour que ce soit clair pour nos auditeurs de Sud Radio, c'est un petit boîtier qui n'est pas très grand, qui vraiment se fixe au niveau de la canne. Et donc, ça fonctionne par Bluetooth, c'est ça? Il faut avoir un téléphone portable?
Oui, tout à fait. Alors, donc, c'est un produit qui fait 107 grammes exactement, donc qui est très léger, qui se connecte au smartphone de l'utilisateur. Donc, il peut avoir un iPhone ou tout type de téléphone Android. Ça fonctionne. Et en fait, ça permet de réutiliser les capacités du téléphone, mais de pas d'avoir un produit qui reste léger sur la canne. Donc, il n'y a pas plein de choses dedans. Typiquement, la puce GPS, elle n'est pas intégrée dans le produit, dans Rango, mais on réutilise bien sûr celle du smartphone.
Ça nécessite un apprentissage au départ pour maîtriser justement cette canne et son utilisation?
Alors oui, toujours, puis ça va dépendre bien sûr des profils, de la facilité qu'ont les personnes à utiliser des produits électroniques ou la facilité qu'ils ont déjà à se déplacer. Donc nous, on propose une formation, ça se fait par téléphone, ça dure 45 minutes, ça se fait très bien, on a 400 utilisateurs qui ont tous été très satisfaits de cette formation. Mais dans le cas où ça pourrait être nécessaire, on a aussi des partenariats avec des instructeurs de locomotion, donc ils vont vraiment pouvoir prendre le relais et passer plus de temps avec les personnes pour qu'elles appréhendent bien le produit dans leur quotidien, qu'elles soient plus à l'aise.
Donc le capteur est bien évidemment, j'imagine, breveté, parce que vous avez mis combien d'années à le développer avec Hugues de Chaumont, votre associé?
Alors ça prend du temps, en effet. Les premiers travaux qu'on a fait là-dessus datent de 2011, donc c'est il y a longtemps, et l'entreprise a été créée en 2015.
Ouais. Et voilà. Alors ce qui est important, il faut le dire, hein, c'est aussi pour ça que vous êtes dans C'est ça la France, c'est que c'est fabriqué en France, c'est du made in France.
C'est made in France et c'est presque made in Rhône-Alpes, quasiment la totalité des choses sont faites vraiment à côté de nos bureaux.
Mais alors ce qui est étonnant, c'est justement, finalement, vous avez eu cette bonne idée d'utiliser la réalité augmentée, c'est ça? Enfin, c'est vraiment une technologie basée sur les capteurs 3D.
Oui, c'est ça. Alors, on entend souvent parler de réalité augmentée, souvent pour l'aspect visuel.
Ouais,
et notre
vrai.
Pari depuis le début, c'était de dire qu'en fait, avec le sonore, on peut aller très loin, augmenter l'environnement de façon sonore. C'est très naturel, ça ne demande pas quelque chose de très invasif. C'est juste une paire d'écouteurs qui ne rentrent pas dans l'oreille. Et ça permet ici aux personnes déficientes visuelles de localiser les obstacles, de pouvoir éventuellement suivre un trajet grâce à un son 3D qu'elles vont entendre dans l'environnement, avoir des descriptions de l'environnement, des rues, etc.
Mais alors, c'est vrai que ça paraît évident hein, qu'on vous en parlait comme ça, mais il faut le dire à nos auditeurs de Sud Radio, vous êtes voué. Et Hugues de Chaumont, issu de l'univers du son.
Oui, alors plus spécifiquement, plutôt du domaine de la réalité virtuelle. Alors un peu du son en effet, mais surtout de la réalité virtuelle, donc toutes les technologies immersives ou de réalité augmentée qui permettent d'immerger une personne dans un environnement virtuel ou augmenter l'environnement pour que l'interface en fait soit très simple, l'apprentissage soit très simple, qu'il n'y ait pas de formation longue, juste on réutilise la capacité de la personne ici à localiser les sons dans l'espace pour lui permettre de localiser les obstacles par exemple.
Mais quel a été l'élément déclencheur ? Comment vous êtes dit, voilà, avec Hugues de Chaumont, on va réussir à... Il faut qu'on fabrique une canne qui soit beaucoup plus performante pour et utiliser justement ce son à 3D pour aider les malvoyants et les personnes non-voyantes.
Alors c'est un mix de plusieurs choses. Déjà l'envie d'entreprendre et de faire quelque chose qui a du sens. C'était une volonté de Hugues et de moi dès le départ. Et puis ensuite c'est l'arrivée de technologies de captation 3D, de capteurs 3D de l'environnement, qui permettait d'envisager de faire ce type de produit, parce qu'il y a 15 ou 20 ans c'était pas du tout envisageable. Et puis aussi justement dans le domaine de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, de plus en plus de personnes qui se disaient dis donc, en fait on a un peu oublié un sens, on a tout mis sur l'aspect vision, en fait il y a beaucoup de choses à faire sur l'aspect sonore. Voilà, il y avait commencé à avoir un peu plus de personnes qui se rendaient compte du potentiel, et ça nous a permis de réfléchir aussi et de se dire qu'il y avait quelque chose à faire pour les personnes aveugles.
Oui, et puis alors il y a un autre point important, c'est vrai que, alors je parle sous votre contrôle parce que vous connaissez mieux cet univers que moi, la difficulté pour une personne malvoyante d'avoir justement un compagnon, un chien qui soit formé justement à le guider. C'est extrêmement long, je crois que les listes d'attente sont longues. Donc cette canne, elle remplacerait justement ce compagnon, elle est complémentaire. Comment ça se passe justement ?
Alors en effet, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas, ou ça prend du temps pour qu'ils aient un chien, parce que ça coûte quand même très cher. Et après, par contre, en fait, on a aussi des personnes qui s'équipent d'un Rango pendant la période d'attente avant qu'ils aient un chien.
Oui.
Et on a aussi des personnes qui ont un chien et qui ont un Rango également, parce que de temps en temps, le chien il doit se reposer et donc du coup, eux, ils
le Rango prend la relève.
Le Rango prend la relève, voilà, exactement.
Alors, autre question importante pour nos auditeurs qui seraient intéressés justement par ce type de canne nouvelle génération, c'est remboursé par la sécurité sociale, combien ça coûte?
Oui, alors donc ça coûte 2000 euros, mais c'est remboursé, alors pas par la sécurité sociale, mais il y a un certain nombre d'aides financières qui existent en France, et on a des partenariats caritatifs qui permettent, en fait, dans à peu près tous les cas, en fonction de la situation financière de la personne, de financer, de faire rembourser ou faire financer le produit. En gros, la grande majorité des cas, les personnes sont remboursées à 75%, voire à 100%.
Oui, parce
on gère tout pour eux, cette recherche justement d'aide. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à nous contacter pour qu'on évalue ensemble les différentes aides auxquelles vous pouvez avoir droit.
Pour guider vers les bonnes personnes, vers les bons organismes qui pourraient les aider à prendre en charge.
On va plus loin que ça, même on gère vraiment les choses avec eux pour qu'ils aient rien à faire et que ce soit simple. Parce que l'administratif, c'est parfois compliqué. Alors quand on est aveugle, ça l'est encore plus. Donc vraiment, on se charge de ça pour eux.
Merci beaucoup François Biro. Je rappelle que vous êtes cofondateur de GoSense et bravo pour cette innovation qui a un impact positif sur la société, ce que vous souhaitiez justement avec Hugues de Chaumont.
C'est le but, voilà.
Et ben bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir. Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter.
Le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur vous présente
Sud Radio Cessale à France avec Thibaut le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors cette semaine, j'ai ouï dire que vous êtes laissé tenter par des douceurs sucrées provençales à l'occasion d'une de vos balades.
Je me suis régalé avec des biscuits provençaux qui venaient tout juste d'être préparés. Et ces biscuits, ce sont ceux de l'entreprise Pêcher Gourmand, qui se situe dans le village de Sifour au bord de la Méditerranée. Et la biscuiterie fabrique des gourmandises artisanales dans la pure tradition provençale. Et j'ai demandé à Anthony Chauffite, l'un de ses co-dirigeants, de m'en dire plus.
Alors à Pêcher Gourmand, nous fabriquons des biscuits sucrés plutôt sec, donc de type navette, croquant, sablé, Monte Chaos, et bien évidemment quelques petits macarons aux amandes.
Et ce sont bien sûr des biscuits provençaux.
Oui, tout à fait. La navette est la spécialité de notre région, assez emblématique. La navette étant un produit qui a été créé au XVIIe siècle par un boulanger à Marseille pour représenter une barque qui se serait échouée dans le port de Marseille. Elle est chaque année bénite par l'archevêque le jour de la Chandeleur. Elle fait partie également, pour certaines familles provençales, des 13 desserts que nous retrouvons sur la table de Noël.
Cette entreprise, elle a une histoire particulière parce qu'elle a été vraiment conçue pour la visite. Je suis rentré par un magnifique patio ouvert sur l'extérieur et on voit à travers des grandes baies vitrées la ligne de fabrication. C'est vous qui avez conçu tout ça, je crois.
En fait, le bâtiment a été conçu et créé pour accueillir des visiteurs, que ce soit des familles ou des groupes. Et donc un magnifique patio qui permet en fait de représenter ces patios à la provençale. Et on a aussi mis sur le bâtiment un joli olivier qui représente l'espoir, qui fait partie du blason de l'entreprise d'ailleurs.
Donc tous les éléments provençaux sont là pour vous accueillir, pour accueillir le visiteur. Et on est accueilli aussi par cette odeur de biscuits chauds qui sortent des fours.
Oui, en fait, c'est vrai qu'on produit toute la journée à partir de 7 ou 8 heures du matin, des fois un peu plus tôt. Et puis toute la journée, il y a une diffusion de l'odeur qui se fait directement à la sortie des fours. Et on peut consommer sur place des biscuits qui sont fabriqués du jour.
Eh bien, dis donc, on sent presque l'odeur de ces biscuits, ça donne envie. Mais alors, j'ai pas très bien compris. Anthony nous a parlé d'une barque. Il y avait quelqu'un à l'intérieur de cette barque ?
Bah oui, en fait, cette barque, c'est pas n'importe laquelle. Dans la tradition chrétienne, elle aurait transporté Marie-Madeleine, Marthe, sa sœur, Lazare, son frère, jusqu'au rivage provençal. Et pour rappeler cette histoire, on a donné à ce biscuit la forme d'une barquette. Mais je vous propose de retrouver Anthony. Cette fois, nous sommes dans l'atelier et on va découvrir la fabrication d'un autre biscuit provençal.
Alors aujourd'hui, on fait des succulents sablés au citron. Ils sont fabriqués notamment par Teddy. Toute la journée, beaucoup de petits biscuits qui sont des accompagnements pour le café, entre autres.
Une recette provençale ?
Alors, on va réutiliser des écorces de citron à l'intérieur qui sont fabriquées en Provence.
Alors, comment s'effectue cette fabrication ?
Alors, ce matin, il a réalisé dans le pétrin qui est juste ici la pâte en mélangeant la farine, les œufs qui nous viennent du Gers. La farine qui nous vient de
Saint-Étienne. Je connais bien.
Ah, vous êtes de la région du Gers.
Je suis gersois.
Ah ben voilà. On a une farine qui nous vient de Saint-Étienne. On va mixer le tout dans ce pétrin qui va tourner et donc malaxer la pâte.
On voit le pétrin, voilà, c'est un pétrin assez immense qui contient combien de litres ?
Là, on est capable de fabriquer en même temps une centaine de kilos.
On pétrit combien de temps ?
Alors le pétrissage va durer entre 15 et 20 minutes. La deuxième étape, Teddy aujourd'hui va mettre celle-ci dans la machine qui est ici. Cette machine en fait va permettre de donner la forme du biscuit.
Une forme ovale ?
D'une forme ovale, tout à fait, qui va rappeler les petits accompagnements pour le café. Ensuite, les plaques nous permettent d'avoir cette forme, de les étaler, et on va les mettre sur un chariot. Ce chariot va contenir une quarantaine de plaques. Quand ce chariot sera plein, nous allons le mettre au four pour le cuire entre 12 et 15 minutes, selon les variétés.
Ah, j'espère qu'il y a de la dégustation à la fin de cette visite, Thibault.
Oui.
Alors, je crois que nos auditeurs auront envie, eux aussi, de continuer à visiter les coulisses des entreprises françaises, et notamment celle-ci. Alors, comment ça se passe pour la visite des Pichets Gourmands ?
Alors ça dure une heure, c'est tous les jours de l'été à 10h30 précise. Vous aurez l'historique, vous verrez absolument tout ce qui se passe à travers les grandes baies vitrées. Et en fin de visite, la fameuse dégustation, mais aussi un jeu sensoriel interactif, parfait pour les enfants. Et pour plus de renseignements, pêcher gourmand au pluriel, pêcher-gourmand.fr.
Merci beaucoup Thibault, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres visites, d'autres idées de visites.
Oui, je vous le confirme, la semaine prochaine.
Sud Radio CSA La France, avec Thibault le French Trotter.
Vous a été présenté par le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur.
On arrive à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Et pour les nostalgiques, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver l'émission en replay sur le podcast sudradio.fr. Bonne journée à vous, bon dimanche à vous.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.